Bonjour Hicham Rassafi.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Merci pour votre invitation.
Alors Hicham, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Par hasard, toujours du hasard, souvent. Par pur hasard, je n'étais pas du tout destiné à ça, a priori.
À quoi vous étiez destiné ?
À quoi j'étais destiné, je l'ignore. À quoi je me destinais, tout dépend des époques de ma vie.
Mais disons vers la fin du lycée, le début des études supérieures.
Ah, on remonte si loin.
Oui, on remonte si loin.
C'était pas encore au siècle dernier. C'était déjà ce siècle-là. Moi, j'avais commencé des études de classe préparatoire scientifique, maths sup. Et puis, pour tout un tas de raisons, ça m'a pas tout à fait convenu.
Parce que
j'étais probablement pas fait pour le système de la prépa, des prépas. Et c'était probablement pas le bon moment pour travailler comme il fallait travailler en prépa.
En termes de rythme, de compétition, de pression.
En termes de rythme, alors la compétition, je l'ai assez peu vécue puisque la classe était quand même assez sympathique. Il y a une très bonne ambiance, ce qui est nécessaire de toute façon dans les prépas. Et oui, surtout en termes de rythme, en termes de violence. Par rapport au lycée, c'est vrai que c'était une expérience assez difficile, qui a beaucoup d'avantages, hein, qui a beaucoup de qualités évidemment, mais j'étais probablement pas fait pour à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai quitté la prépa et j'avais passé un peu par hasard, le concours d'un institut d'études politiques, celui de Bordeaux. Et puis, il se trouve que j'ai été pris, alors je suis parti à Bordeaux, dans une région qui n'est pas du tout la mienne, puisque je viens du Nord. Et donc, je me suis retrouvé à Bordeaux, à 17 ans, à Sciences Po.
Ah, mais vous étiez tout jeune.
J'étais jeune, oui. Je le suis toujours.
Dans les classes prépa, vous aviez un peu d'avance au lycée, en fait, c'est ça que je veux dire.
Oui. Mais voilà, je me suis retrouvé en tout cas à Bordeaux, à Sciences Po, alors que je venais d'une classe prépa de maths sup.
Et pourquoi être allé vers un institut de un IEP?
Disons que les matières, bon, j'avais fait une terminale scientifique, mais les matières, l'histoire notamment, m'avaient toujours intéressé, beaucoup intéressé. Et puis une sensibilité aussi à rester attentif à ce qui se passe ailleurs dans le monde, aux grands enjeux contemporains, etc. Donc, quand j'avais passé le concours, en tout cas, c'était mon état d'esprit, c'était des matières, c'était une perspective qui m'intéressait. Et donc, je me suis retrouvé là-bas.
Et comment ça s'est passé à Bordeaux ?
Très bien. Très bien. On vit bien à Bordeaux. C'est une très belle ville. D'ailleurs, j'ai cru comprendre maintenant que beaucoup de Parisiens avaient élu domicile à Bordeaux grâce au TGV. Mais c'est
oui,
une très belle ville.
Je ne suis pas sûre que ça plaise beaucoup aux Bordelais, mais oui.
c'est la rançon de la Loire. Mais non, c'est une ville très, très sympathique. On y vit bien, on y boit bien. Et l'Institut d'études politiques était tout à fait un cadre de travail qui me convenait. Personnellement, beaucoup plus libre, mais qui restait quand même encadré. Puisqu'à l'époque, je ne pense pas que j'avais la maturité de me retrouver pour travailler en totale autonomie en fac. Donc le statut école de l'Institut d'études politiques me convenait plutôt bien. Voilà, et puis... Et puis j'ai fait 2 ans, les 2 premières années. La 3e année, c'était l'année de mobilité internationale. Donc je me suis retrouvé à Beyrouth.
Pourquoi Beyrouth?
Mais pourquoi pas?
Mais oui, mais pourquoi pas? Mais quand même, j'ai envie de creuser.
C'était une région qui m'a toujours intéressé. Il se trouve qu'on avait un partenariat, enfin, en tout cas, l'Institut d'études politiques de Bordeaux avait un partenariat avec l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Mmh. Et puis, voilà, j'avais pas particulièrement envie d'aller faire mon Erasmus en Espagne, en Allemagne, en Italie. Voilà, j'avais envie de prendre un peu de large. Et donc, je me suis retrouvé à Beyrouth, ce qui a été compliqué au début, puisque j'y suis allé durant l'année scolaire 2006-2007. Et à l'été 2006, il y avait eu cette guerre des 33 jours entre le Hezbollah libanais et Israël. Et en réalité, 2 jours avant que je prenne l'avion, l'aéroport de Beyrouth avait été bombardé, ce qui avait retardé évidemment mon départ, puisque à l'époque on rapatriait les Français du Liban, donc il était évidemment hors de question d'y aller. Et ce qui avait compromis un temps mon départ également, puisque évidemment l'administration de l'Institut d'études politiques était plus tout à fait dans les mêmes
dispositions. Voilà. Mm-hmm. Et comment vous l'avez vécu cette perspective de potentiellement partir dans un pays agité?
Beaucoup mieux que mes parents. Bon, j'avais décidé d'y aller de toute façon, donc il était hors de question que je ne parte pas. Et moi, ça ne m'a pas. Bon, il faut quand même avoir conscience des risques. Hein. Il ne s'agit pas d'être tête brûlée. Et il fallait. Et je pense, j'avais conscience des risques évidemment. Mais malgré tout, l'évaluation que je faisais. Était plutôt en faveur d'un départ, donc et puis c'est bon, voilà, je le referai probablement pas aujourd'hui, probablement pas à mon âge, probablement pas en étant marié et père, mais à l'époque bon, j'avais un peu plus de liberté de manœuvre, quoi.
Et vous avez pu partir finalement?
Oui, je suis parti un peu plus tard. Je devais partir en juillet, je suis parti en septembre. Mmh. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Bon, évidemment, c'est un pays qui à l'époque était un peu agité. Aujourd'hui également, un pays qui subit des tensions internes, des pressions externes. Mais c'est un pays très riche. Humainement, intellectuellement, j'ai énormément appris de mon expérience béroutine.
Qu'est-ce que vous avez appris de plus crucial de cette expérience?
À prendre du recul et à considérer avec un peu plus de nuance notre mode de vie, en fait, à comparer le mode de vie qu'on a France, en Europe occidentale de façon générale et ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde.
Ça fait
beaucoup relativiser, en fait.
Oui. Et donc, quand vous êtes rentré en France, vous êtes rentré dans quelle... En fin de 3e année d'études, vous étiez dans quelle disposition? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire à ce moment-là?
Repartir.
Vous avez été mordu par le virus?
Ben oui. Ah oui, une fois qu'on y a goûté. Non, j'avais envie de repartir. D'ailleurs, la rentrée en 4e année était un peu difficile. On retrouvait la vie bordelaise, qui n'est encore une fois pas désagréable, hein, mais évidemment, ça n'avait rien à voir avec la vie béroutine. Et voilà. Et d'ailleurs, je pas forcément pour ces raisons-là, mais j'ai quitté l'Institut d'études politiques en quasiment fin de quatrième année sans passer mes examens et évidemment sans retourner en cinquième année, donc sans avoir le diplôme.
Pourquoi ?
Tout un tas de raisons, je pense que c'est pas utile d'évoquer ici, mais en tout cas plutôt familiales et voilà. Je suis parti, je regrette pas. Hein. Je regrette juste de pas être sur l'annuaire des anciens, mais bon.
Ça va. Et comment est-ce que vous êtes parti pour faire quoi ? Est-ce que vous êtes parti pour faire quelque chose ou est-ce que vous avez eu une période un petit peu de flottement ? Comment est-ce que ça s'est passé ce départ du coup avant diplôme ?
Je suis parti pour partir. Et donc j'ai effectivement eu une période d'interrogation sur ce que j'allais faire. J'avais à l'époque postulé dans des universités au Canada. Ça n'avait pas fonctionné, donc je me retrouvais un peu sans rien. Et donc par dépit, en fait, je me suis dit bon, voilà, je n'ai pas de diplôme puisque la formation à l'IUP était tubulaire, donc on rentrait en première année ou en deuxième ou en troisième, mais en tout cas moi j'étais rentré en première année et donc il n'y avait pas de diplôme intermédiaire. On en sortait en cinquième année avec le diplôme de l'IUP équivalent master ou avec un master de plus, je sais pas, mais en tout cas il n'y avait pas de diplôme intermédiaire, donc j'étais en quatrième année, j'avais pas de diplôme. Et alors, je me suis dit que, bon, quitte à ce que j'avais appris à faire, c'était aussi à préparer des concours. Donc, je m'étais dit que j'allais m'inscrire à un institut de préparation à l'administration générale, un IPAG, de ma ville, quoi. Un ami de mes parents qui connaissait le doyen de la faculté de droit m'avait dit, écoute, t'es un peu perdu, rencontre-le, il est de bons conseils. Et alors, c'est rigolo, l'IPAG était dans les locaux de la faculté de droit. Mmh. Et j'avais en tête le modèle de l'Institut d'études politiques où le CEPAG, donc le Centre de préparation à l'administration générale, était une composante, une formation interne de l'Institut d'études politiques. Dans ma tête, l'IPAG était en fait une composante de la faculté de droit. Et donc j'ai rencontré le doyen de la faculté de droit, à qui donc j'ai exposé que je souhaitais intégrer l'Institut d'études politiques, l'Institut de préparation à l'administration générale, et naïvement en fait je pensais que ce doyen de la faculté était de fait le directeur de l'IPAG. Et que j'avais en face de moi donc la personne que je vais convaincre de m'accepter en fait dans la formation. Et puis le doyen me disait, mais oui, d'accord, vous pouvez aller à l'IPAG effectivement, mais qu'est-ce que vous diriez de reprendre en fac de droit, bon, vous venez d'un institut politique, vous avez une formation correcte, moi je peux vous admettre en troisième année de droit par équivalence en sous réserve que valider les matières fondamentales de deuxième année qui sont le droit des obligations et le droit administratif général. Et bon, j'avais décliné gentiment, je continuais à lui parler de l'IPAG et lui continuait à me parler à répliquer par une proposition d'inscription à côté de moi. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il commence à m'énerver un petit peu. Je vais lui dire OK pour rentrer dans sa formation de droit. J'ai pas envie de faire du droit, mais bon, je vais dire OK pour rentrer dans sa formation. Comme ça, il m'embêtera pas pour m'accepter à l'IPAG. Et en fait, j'avais tout faux, puisqu'il n'était pas du tout le directeur de l'IPAG. C'est un quiproquo magnifique.
Donc en fait, voilà, c'est un magnifique quiproquo.
Exactement, ça n'est que ça.
Il y avait erreur sur les termes du contrat.
Il y avait effectivement erreur sur les qualités essentielles. De ce qu'on me vendait. Et donc, il se trouve que la formation de droit commençait début septembre et celle de l'IPAC commençait fin septembre, début octobre. Donc, j'ai commencé 3 semaines de droit avant d'aller à la réunion d'information de rentrée du bag, et de me rendre compte que c'était pas du tout la même, pas du tout le même institut, la même, voilà. C'était les mêmes locaux, mais c'était deux instituts différents, enfin, un UFR et un institut différent. Et donc voilà, j'étais tombé sur un directeur d'IPAG à l'époque qui était assez. J'avais un problème qui était que j'avais deux TD en même temps, l'un à la faculté de droit et l'autre à l'IPAG. Et donc j'étais allé voir le directeur de l'IPAG à la fin de la réunion d'information en lui disant: écoutez, monsieur le directeur, j'ai un problème, j'ai deux TD en même temps. Est-ce que on pourrait trouver une solution? Est-ce que je peux changer de groupe? Et il m'a regardé, il était assez désagréable, un personnage assez désagréable, et il m'a dit écoutez, il n'y a pas de solution, j'ai toujours estimé que quand on faisait deux choses, on les faisait mal. Donc je lui ai dit: mais écoutez, monsieur le directeur, je vous remercie, je viens de choisir. J'ai jamais remis les pieds à l'IPAG, et donc j'ai continué en droit. Voilà.
D'accord. Et cette poursuite en droit?
Alors, en droit, bah, j'ai commencé avec un a priori très négatif pour le droit public, puisque tout le monde me disait, le professeur me disait: monsieur Rassafi, vous venez d'un IEP, vous êtes donc plutôt publiciste. Et par esprit de contradiction, je dis: mais pas du tout, moi je veux être avocat en droit privé.
C'est ce que j'allais dire, hein. On sent quand même un esprit de contradiction générale.
Ah, vous le sentez déjà? Ça fait quoi, un quart d'heure qu'on parle? Vous l'avez déjà
senti? Ça fait 17 minutes qu'on parle et c'est vrai qu'on sent pas mal d'esprit de contradiction. Enfin, je veux dire, finalement, la prépa de maths, non. Et puis, l'année à l'étranger, ben, ce sera pas les États-Unis comme tout le monde, mais ce sera Beyrouth.
Oui, c'est pas de la contradiction. Alors, oui, ces aspects-là, c'est pas tellement de la contradiction. Oui, j'ai bien conscience d'avoir fait des choix qui sont pas forcément des choix du parcours classique, mais encore une fois, je regrette rien. Et puis, ça m'a beaucoup nourri. Mais donc, en tout cas, je me destinais en début de troisième année à être avocat en droit privé. Et j'avais des amis de la famille qui étaient avocats et qui avaient accepté de me prendre dans leur cabinet pendant un jour ou un jour et demi par semaine, en fait, dès le début de la troisième année. Donc, j'ai commencé le droit à la fois en étant à la fac et en étant un jour et demi par semaine dans un cabinet d'avocat.
J'allais vous demander, c'est comment de commencer une matière avec des a priori négatifs? Enfin, c'est comment de commencer une matière sans avoir vraiment envie d'y être? Non seulement sur un quiproquo, mais en plus sans particulièrement avoir choisi le droit. Enfin,
bah, je me suis quand même vite rendu compte que j'avais plus de plan B. Hein, donc, la nécessité a fait que je me suis évidemment plongé dans la matière.
Et est-ce que le fait de tout de suite pratiquer en même temps dans un cabinet d'avocat en parallèle des études, est-ce que ça a peut-être aidé à apprendre les choses un peu mieux, enfin en tout cas à mieux vivre?
Et c'est vrai qu'on voit tout de suite l'intérêt pratique de la chose, de ce qu'on fait, et au-delà de l'intérêt pratique de ce qu'on fait, on voit surtout les problèmes auxquels on est confronté, les problèmes de raisonnement, les problèmes de mise en application. Il faut dire que j'ai eu quand même j'ai rencontré deux personnes assez hors du commun. D'une part, qui était l'associé principal de cette étude, de ce cabinet d'avocats, et mon chargé de TD de droit commercial, qui est devenu un ami après, qui avait un don pédagogique assez hors du commun. Et c'est en fait grâce à lui que j'ai beaucoup compris, j'ai très vite compris le raisonnement juridique, que j'ai assez vite d'ailleurs assimilé à un raisonnement mathématique, enfin, ce avec quoi j'étais peut-être un peu plus familier.
Et donc, vous reprenez en troisième année de droit avec plutôt l'envie d'être en droit privé. Il y a ce cabinet d'avocat qui vous prend pour un jour et demi par semaine. Ces deux rencontres de personnes qui vous portent. Comment est-ce que vous avez évolué par la suite ?
Alors, j'ai j'ai validé mon année, j'ai plutôt bien réussi, j'étais content. Je détestais le droit administratif. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'était vraiment très compliqué. Je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Et donc, comme
qu'est-ce que vous ne compreniez pas ?
Tout, rien. Enfin, je comprenais rien. Le début, un cours de droit administratif, les premiers cours de droit administratif, début de deuxième année, ça parle des sources, c'est incompréhensible, c'est un charabia. je comprenais rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai probablement plus travaillé cette matière que les autres. Ça m'a fait exactement la même chose avec le droit de l'Union européenne en troisième année. Je comprenais rien du tout. Ça me gonflait. Et donc, j'ai dû travailler ces matières beaucoup plus que de raison et beaucoup plus que les autres, en fait.
Vous auriez aussi pu choisir l'autre option qui était de les travailler beaucoup moins et de miser sur les autres matières pour faciliter les années.
Oui, mais c'était pas vraiment une option parce que comme j'avais pas de plan B, comme c'était déjà ma deuxième réorientation, j'avais pas tellement d'autres choix que de. J'avais 2 ans de plus que mes collègues de promotion, donc. J'avais pas vraiment d'alternative. Hein. J'étais obligé de m'y mettre sérieusement. Donc je pouvais pas, j'avais pas plus vraiment de marge de manœuvre. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire et ça vaut éventuellement pour les étudiants qui écoutent qu'il faut absolument avoir un parcours linéaire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, enfin je suis l'exemple qu'on peut aussi avoir un parcours tout à fait pas linéaire, mais néanmoins, au bout d'un moment, les changements d'orientation, bon, c'est de plus en plus difficile à assumer, c'est de plus en plus difficile à gérer, donc gardez ça en tête. Donc j'ai travaillé, une troisième année, uniquement avec des matières de droit privé. Et en quatrième année, il y avait une particularité, c'est qu'on pouvait choisir toutes les matières qu'on voulait, qui étaient proposées. On pouvait faire des combinaisons celles qu'on voulait. Et il se trouve que j'avais pris des matières à la fois de droit privé, droit des affaires, et à la fois de droit public, puisque je m'étais dit que finalement, le droit public des affaires, c'était peut-être pas si mal. Donc en quatrième année, un master mi privé, mi public, et puis en réalité, je me suis retrouvé publiciste que du droit public à partir de la cinquième année.
À la faveur des efforts dont vous avez redoublé pour pouvoir valider vos années, ou à la faveur de qui font qu'à un moment vous avez vu la lumière et là ça a vraiment été éclairant au point de vouloir vous y dédier.
Alors... Je me souviens qu'à un moment, alors je me souviens plus du raisonnement exact qui avait conduit à prendre des matières à faire en gros du droit public des affaires en master 1. Mais je me souviens simplement qu'à la fin de ma troisième année au cabinet d'avocat, il y avait eu un dossier que personne ne comprenait, ne maîtrisait parfaitement au sein du cabinet et sur lequel on m'avait demandé de faire des recherches. Et qui était un problème de concurrence, en fait, dans le cadre d'un marché public. Et du coup, je m'étais penché dessus et j'avais trouvé ça intéressant. Enfin, et je pense que ça a dû contribuer à un mouvement plus général qui m'a poussé vers le droit public.
Et donc là, on en est à peu près à la fin de votre parcours universitaire. À ce moment-là, vous vous dites que vous avez envie de devenir avocat, vous penchez plutôt vers les institutions. Comment est-ce que vous vous projetiez à ce moment-là ?
Eh bien, je me dis qu'on se sent bien à l'université. Je me dis qu'on se sent plutôt bien à l'université Et les circonstances ont fait à un moment que j'ai pu m'inscrire en thèse de doctorat.
C'est quoi ces circonstances ?
Oh, des rencontres essentiellement, hein. Rencontre un nouveau professeur agrégé qui arrive, avec qui je m'entends bien, qui obtient un financement par voilà, financement interne de l'université pour recruter un thésard. Et puis voilà.
Et il vous le propose ? Vous lui aviez manifesté que ça vous intéresserait de faire une thèse ?
Oui, oui, oui. Enfin, dès le. Et en fait, c'était le professeur qui assumait le cours de droit de l'Union qui m'avait invité à la fin du M1, qui m'a dit vous pourriez peut-être faire une thèse, vous en auriez a priori des capacités, on sent bien que vous avez un attrait pour la recherche, etc. Je lui ai dit oui, bon, pourquoi pas. Et puis je lui ai dit vous savez, moi j'avais commencé. En commençant le droit, je voulais être avocat privatiste. C'est probablement pas pour me retrouver doctorant publiciste, quoi. Et en réalité, si. Donc, ce jeune agrégé arrive dans notre fac, son premier poste après le concours. On s'entend a priori plutôt bien, en tout cas, on décèle des affinités. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Évidemment, le projet de thèse se prépare. En tout cas, pour moi, il s'est préparé dès le début du Master 2. Hein. Et puis voilà, donc je suis, j'ai entamé, après mon Master 2, une période, mon plan quinquennal de thèse, donc qui a duré de 2011 à 2016. Voilà.
Et comment ça s'est passé, cette thèse ?
Ah, la thèse, l'exercice de thèse est un exercice très particulier. Exercice très particulier. L'ancien doyen de la faculté de droit où j'étais avait l'habitude de dire que c'est un travail de moine bénédictin. Travail solitaire, travail qui, quand on le prend au sérieux, comme la quasi-totalité des thésards, hein, est un travail qui nous impose de nous remettre en question. Et de remettre en question évidemment nos connaissances, etc. Donc c'est un travail ardu, voilà, un travail difficile.
Et ça vous a plu ?
Beaucoup. N'y voyez aucun signe de masochisme.
Non, mais pas du tout. Je vous demande de manière tout à fait naïve si ça vous a plu.
On peut. Je sais qu'il y a un paradoxe à dire que le travail est difficile et que néanmoins on s'y plaît. Mais oui, la recherche procure effectivement un intérêt, en tout cas j'ai trouvé pour ma part un intérêt certain, oui.
Le fait de creuser une matière, la recherche intellectuelle, l'exercice de rédaction, qu'est-ce qui vous a plus animé ?
Plus d'exercice de recherche, de lecture, de recherche, de compréhension, d'appréhension du droit. Alors j'appréhende beaucoup le droit comme de la mécanique, comme des mathématiques, comme chose de très, très systématique. Et donc, un problème de droit, c'est un problème de mécanique, un problème de Lego ou un problème de casse-tête chinois, enfin, voilà. Mm. C'est assez stimulant. En revanche, la phase de rédaction, celle qui consiste à produire, à coucher, ce qu'on a trouvé, c'est très intéressant de trouver, de chercher, de s'interroger, etc. Mais bon, une fois qu'on pense avoir la réponse, en tout cas personnellement, une fois que j'ai trouvé la réponse à mon problème, c'est très pénible d'écrire. Parce que le truc est fait, le casse-tête est résolu, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais non, il faut écrire. Il faut évidemment le coucher. Et alors, on rentre là dans un exercice très compliqué. Qui est l'exercice de rédaction proprement dit, qui doit respecter un certain nombre de canons académiques. Et il faut s'y faire. Voilà, ça a été assez difficile.
C'est amusant parce que, alors, j'ai jamais écrit de thèse, mais je trouve que Il y a toujours une phase où on réfléchit et on pense avoir trouvé la réponse, et quand on écrit, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas tout à fait trouvé la réponse. Et donc, il faut encore rechercher pour préciser, pour huiler les choses. Et je trouve que la phase de rédaction révèle toujours là où c'est pas clair dans la pensée.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est très juste. En écrivant, on se rend compte qu'on est passé peut-être un peu vite sur un point, et ça mériterait effectivement d'être également. Enfin, quand on a trouvé la réponse, on a le plan, hein. Comme un architecte a son immeuble, il a le plan de l'immeuble et il faut ensuite le construire. Et effectivement, au moment où on construit, on s'aperçoit que la structure est mal calculée, qu'il y a un problème quelque part, que les fondations ne sont pas aussi solides qu'on le pensait. Oui, c'est juste. Ouais.
Et comment, à la fin de cette thèse, c'est quoi les perspectives post-thèse pour un thésard en droit?
Alors, moi, je l'avais faite dans l'objectif de rester à l'université, puisque malgré tout, on y est quand même pas mal. Et donc, je suis resté dans cette perspective. Après la thèse, donc moi, j'ai soutenu en juin. Il y a une procédure de qualification en fonction de maître de conférence par le Conseil national des universités, en général en février de chaque année. Et donc, moi, ayant soutenu en juin, il fallait bien que je trouve quelque chose. Il se trouve que il y avait un appel à candidature pour des chercheurs en post-doctorat à l'Université du Luxembourg, sur un projet de recherche financé par l'Union européenne sur la thématique de la gouvernance économique européenne. Mmh. Et j'ai postulé, j'ai été pris, donc je suis parti à Luxembourg de cette façon-là.
Donc le départ au Luxembourg, ça a été aussi un hasard de la vie?
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc ce post-doc?
Très bien. L'Université du Luxembourg est une université jeune, une quinzaine d'années à peu près, et riche. Et ça change les conditions d'exercice. Évidemment, change de ce qu'on connaît en France, malheureusmement. Donc c'était une expérience très très étonnante, en tout cas pour quelqu'un qui venait de l'université française, de voir comment on pouvait travailler dans un contexte européen, puisque l'université accueille énormément, l'université du Luxembourg accueille énormément de chercheurs étrangers. Donc c'était une expérience très riche.
Ça a duré combien de temps ce post-doc?
Un an.
Et vient le moment de d'enseigner à plein temps, ou c'est quoi cette trajectoire à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, donc la première année, je n'ai pas été qualifié en fonction de maître de conférence. Je le serai l'année d'après. Mais donc,
Comment vous avez vécu cet échec de non-qualification comme maître de conférence?
Bon, c'est un échec, ça fait jamais plaisir, évidemment. Ça m'a permis de retravailler un petit peu la thèse pour corriger les faiblesses qu'elle avait pu présenter. Et au final, je trouve que le résultat, en tout cas, me convient mieux que la première thèse que j'avais déposée au Conseil national des universités. Bon, c'est un échec, ça fait jamais plaisir. On fait avec, et puis on corrige ce qu'il y a à corriger, et finalement ça a fonctionné. Donc voilà.
Comment on se sent dans cette année? Alors je vous demande ça parce que donc moi j'ai une activité de formation, j'ai créé des formations. Et là, je suis en train de repenser les formations. Et Et j'ai l'impression que ces semaines, donc ça fait quoi? Ça fait 6 semaines que je repense les formations et leur format. Et j'ai l'impression que c'est tellement long. Alors, le fait de reprendre son ouvrage, et c'est de la production, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être dans la production parce que c'est un travail solitaire, qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore acté. Alors, je fais un parallèle avec la perspective. Alors, déjà de 50 thèses, mais au-delà de ça, avec une perspective de j'ai produit quelque chose et je le reprends pendant un an avant de le soutenir. Enfin, c'est longues échéances, quoi. Est-ce que, enfin, c'est un rapport au temps et à la production du travail qui est particulière quand même. Est-ce que, qui est particulier, pardon. Est-ce que, comment vous vous sentiez, vous, à ce moment-là?
Alors, c'est vrai que c'est jamais plaisant. C'est très juste ce que vous soulignez, ce rapport au temps. Le temps universitaire est normalement un temps long. L'unité de base étant au mieux le semestre. Le semestre, en jargon universitaire, c'est pas 6 mois, c'est 4 mois, mais enfin, c'est quand même relativement long. Sinon, l'année pour les procédures de recrutement, de qualification, puis de recrutement ensuite. Donc effectivement, un échec à un moment, ça implique une année d'incertitude supplémentaire. Et puis il y a un autre élément qui est désagréable, c'est de se relire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à me relire, j'ai horreur de ça, parce qu'il y a toujours à reprendre. Et parfois, on se demande comment on a pu écrire ça. Non, mais c'est pas moi, c'est moi qui ai écrit ça. C'est nul. Et voilà. Donc effectivement, on relit ce qu'un autre a écrit avant. Enfin, soit ce qu'on a nous-mêmes écrit avant, mais on n'est plus le même. Donc du coup, c'est assez difficile d'assumer la paternité de quelque chose qu'on a écrit à un moment où on n'était pas nous au moment où on le lit. Donc c'est pas très agréable, mais bon, c'est un exercice à faire. Voilà. Donc voilà. Et puis ensuite, j'avais publié pendant cette année de postdoc un article en droit administratif des biens. Le jour où il a été publié, en fait, je reçois un mail de monsieur dont je me rends compte qu'il est conseiller d'État du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg. Et ce monsieur me dit, mais cher monsieur, j'ai lu avec intérêt votre article avant de me rendre compte que nous enseignions dans la même université, à l'Université du Luxembourg. Je serais ravi de vous rencontrer pour que nous en discutions. Alors je me dis, bon, je reçois un mail d'un conseiller d'État, c'est un peu bizarre, qui dit qu'il a vu mon article. Bon, c'est un peu étonnant, c'est agréable pour le coup, mais c'est un peu étonnant. Et puis je lui dis, mais cher monsieur, avec grand plaisir, quand vous voulez. Alors il me dit, bon, j'ai pas beaucoup de temps, c'était au printemps là, avant Pâques. Il me dit, j'ai pas beaucoup de temps là, j'ai beaucoup de travail, je pars en vacances après, mais dès mon retour, je vous contacte. Il se trouve que il me réécrit 1 ou 2 mois plus tard en me disant, cher monsieur, je vous ai pas oublié, mais j'ai toujours pas de temps, je souhaiterais faire votre connaissance. Ok, alors, je me dis, bon, il est très sympathique ce monsieur, en tout cas très poli. Et à la fin de l'année du postdoc, j'étais dans l'attente d'éventuellement un autre postdoc, enfin, en tout cas une extension du projet de recherche ou un autre poste qui ne venait pas. Donc je me suis mis à chercher du travail, parce qu'il fallait bien un moment, travailler, enfin en tout cas continuer à travailler. Et donc j'ai écrit à ce monsieur, conseiller d'État, qui est par ailleurs avocat, puisqu'au Luxembourg les conseillers d'État n'ont Conseil d'État n'a pas de rôle juridictionnel, elle n'a plus de fonction juridictionnelle, uniquement consultatif. Donc les conseillers d'État le sont à titre accessoire et beaucoup sont avocats. Donc j'écris à ce monsieur qui m'avait gentiment écrit Et je lui dis, écoutez, voilà, je me permets de vous recontacter. On n'avait pas échangé sur ça, mais il se trouve qu'en septembre, je suis disponible. Voici mon CV. Si jamais ça vous intéresse, bien, je suis à votre disposition. Et puis il me répond en me disant, si je vous disais que c'était un peu l'idée que j'avais en tête. Alors je lui dis, mais écoutez, si vous me disiez ça, je vous répondrais que vous avez eu une excellente idée. Et donc voilà, on s'est rencontrés, on a échangé, et puis j'ai intégré cette étude d'avocat à Luxembourg, donc encore une fois complètement par hasard, pas en tant qu'avocat, en tant que juriste, salarié, conseiller scientifique.
Voilà. Consultant juridique, quoi.
Oui, mais bon, sous statut de salarié, et voilà, donc j'ai commencé à faire du droit public luxembourgeois.
Que vous aviez fait déjà ?
Jamais. Mais il y a une filiation. Il y a quand même une filiation. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait identique au droit public français, mais il y a une filiation nette, certaine. Donc c'est intéressant. Et puis au bout d'un an, je me suis dit bon, je vais peut-être rester là un peu. Je continue avoir une activité de recherche par ailleurs, puisque je suis chercheur associé, et avoir des activités d'enseignement, mais bon, je vais peut-être passer avocat.
Dans quelle perspective passer avocat ? Pour le titre, je sais pas, un truc en plus, dans la perspective d'avoir une meilleure possibilité de mobilité professionnelle, c'était quoi l'idée derrière
Non, c'était quelque chose, c'était une réflexion purement pragmatique, c'était que c'était beaucoup plus facile, en fait. Parce que conseiller scientifique, personne ne comprend vraiment ce que c'est. Conseiller scientifique en droit, je sais, moi, monsieur, je vois que vous êtes docteur, mais bon, docteur en quoi? Parce que bon, vous travaillez dans une étude d'avocat, vous avez fait des études de médecine avant? Non, pas du tout, je suis docteur en droit. Mais conseiller scientifique, mais le droit, c'est une science? Oui, quand même. Une science juridique. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Ou alors d'être gentiment obligé de dire aux clients qui m'écrivaient en disant « Cher maître, j'ai bien reçu votre consultation. Cher madame, cher monsieur, merci beaucoup, mais je me dois de vous signaler que je ne suis pas avocat. » Bon. Ça met toujours dans des situations un peu compliquées. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose aussi, c'est que bon, je traitais... Alors, je fais beaucoup... Enfin, en tout cas, à titre personnel, je fais beaucoup de conseils, 85%. Mais bon, il reste quand même 15% de contentieux, parfois. Et c'est quand même beaucoup plus simple. En étant avocat, je fais le dossier, je vais le plaider. Voilà. Sinon, ça oblige à demander soit à l'associé, donc le conseiller d'État, soit... à des collaborateurs qui n'ont pas travaillé sur le dossier, d'aller plaider à ma place. C'est pas très pratique, en fait. Donc, je me suis dit, allez, passons avocat, au moins.
C'était quoi la procédure ?
Alors, au Luxembourg, pour devenir avocat, il faut que vous... Alors, il faut comprendre que au Luxembourg, traditionnellement, l'université n'a que 15 ans et est très ouverte sur le droit européen, etc. Et en tout cas, à l'époque, traditionnellement, il n'y avait pas d'université. Il y avait un centre universitaire, mais il n'y avait pas d'université en tant que tel. Et donc, la plupart des avocats ont fait leurs études en Allemagne, en France, en Belgique ou ailleurs. Donc, pour assurer quand même un minimum de cohérence, ces jeunes juristes, jeunes diplômés qui rentrent au pays après leurs études à l'étranger, essentiellement en Europe, il fallait leur fournir un cursus commun de droit luxembourgeois. Et donc, il y a une période qui débute en septembre et qui s'achève en février de cours, enfin en janvier, de cours qu'on appelle les CCDL, le cours complémentaire de droit luxembourgeois. Donc, on fait ces 6 mois de cours, enfin, en tout cas, on s'y inscrit, et puis, à la fin, on a un examen qui porte sur l'ensemble du programme. Alors, aujourd'hui, ça a un peu changé, on a une petite dizaine de matières qu'on choisit, et puis on passe cet examen, Et lorsqu'on a cet examen, on devient avocat liste 2. Alors, liste 2 sont les avocats qui sont avocats, hein, qui ont prêté serment, qui peuvent plaider, qui sont inscrits au barreau, etc., mais qui ne peuvent pas rédiger d'actes, ou en tout cas signer d'actes de procédure. Mmh. Les avocats liste 2 le sont pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, et doivent passer après ce qu'on appelle l'avoué, puisque les avocats sont aussi avoués. Et une fois qu'on a l'avoué, on est avocat liste 1, avocat à la cour, et là, on peut passer, on peut signer des actes de procédure.
Et donc, vous, actuellement, vous êtes avocat liste 1 ou liste 2 ?
Actuellement, je suis avocat liste 2.
D'accord. Et donc, vous devenez avocat pour clarifier un peu la situation. En tout cas, vous vous plaisez dans cette étude ?
Oui, ça fait bientôt 3 ans que j'y suis. Donc, oui, c'est plutôt plaisant. On a un domaine de spécialité. Alors, on fait un peu de tout, hein, droit du travail, droit des affaires, un peu de droit de la famille. On fait assez peu de droit pénal, mais bon, il y a quelques dossiers quand même. Et puis surtout, on a une spécialisation aussi en droit public. Donc, moi, je suis plutôt rattaché au pôle de droit public. Et on est relativement peu nombreux au Luxembourg à faire du droit public. Et donc, on a des dossiers tout à fait intéressants. Voilà, c'est très épanouissant d'un point de vue intellectuel. On a vraiment des vrais beaux dossiers avec des vraies belles questions qui se posent. Et puis, Luxembourg est un petit pays. Quand il y a un projet, ça devient vite un projet à l'échelon national. Et quand c'est un projet à l'échelon national, ça devient vite un projet à l'échelon européen ou avec partenariat européen ou des choses comme ça. Donc on est très vite en fait à un niveau relativement élevé, et c'est très intéressant. Les enjeux sont intéressants, les enjeux intellectuels sont intéressants. Et voilà. Donc
c'est amusant parce que vous êtes retrouvé à la faveur d'un article de doctrine sur à intégrer un cabinet qui fait effectivement exactement ce qui vous plaît, c'est-à-dire avoir une activité en droit public, mais avec voilà, des dossiers tels que vous êtes intellectuellement captivé par ce que vous faites. Et en fait, c'est comme si c'est dernières années, enfin en tout cas cette transition depuis le postdoc vers la profession, s'était passée avec une simplicité sans commune mesure avec les débuts de votre vie professionnelle, enfin de votre vie académique en tout cas, qui était plus chaotique, enfin chaotique c'est pas le mot, mais en tout cas qui était plus hésitante, quoi, avec plus trébuchante, on va dire.
Oui, plus trébuchante, mais en même temps je me laisse un peu porter aussi, c'est-à-dire que quand je dis que c'est du hasard, je prévois pas forcément, et puis je me laisse un peu porter. Bon, jusqu'à présent,
ça marche.
Bah, en tout cas, le
résultat. En tout cas, vous êtes heureux, vous êtes épanoui.
Voilà, c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Ouais.
Et comment est-ce que vous vous projetez dans les années qui viennent, en continuant à vous laisser porter comme ça?
Oui, oui, j'ai arrêté de me projeter un peu parce que ma modeste expérience me montre que systématiquement, quand je me suis projeté, je me suis planté. En tout cas, j'ai raté ma cible. Je voudrais juste continuer à garder ce rythme de croisière qui consiste à avoir un pied à l'université, un pied dans l'avocature. Ça me permet de faire du droit, quelle que soit la forme en fait, hein, que ce soit sous forme d'enseignement, sous forme de recherche ou sous forme de ce que je fais à l'étude. J'ai l'habitude d'appeler de la recherche appliquée en droit, puisqu'on a souvent des problématiques où on doit faire un peu de travail de doctrine, en tout cas le premier pas du travail de doctrine. Donc voilà, quelle que soit la forme d'exercice du droit, exercice de juriste. Moi, ça me convient bien, en fait, cet équilibre. Un peu de cours, un peu de recherche, un peu de pratique. Ouais.
Est-ce que vous avez eu une joie dernièrement?
Est-ce que j'ai eu une joie dernièrement?
Oui. Quelle est votre dernière joie?
Je ne sais pas. J'ai pas de. Ma fille m'a fait un bisou ce matin. Voilà. C'est une petite joie. Petite joie quotidienne.
Mais grande joie professionnelle, je n'en ai pas. Plein de petites joies quotidiennes font de la joie au quotidien. C'est tout ce qu'on attend.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Alors, j'évite d'aller plaider nu. Hein. Certains confrères strasbourgeois, notamment, l'ont fait. Ils ont eu des problèmes. Ce que je porte sous ma robe, rien que moi. Une chemise, un pull, un chino. Voilà.
En toute simplicité. Merci beaucoup, Hicham.
Merci à vous.